Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ensemble pour près de 57 minutes d'échange et de partage dans votre émission 100% interactive de Radio Capille. Il s'agit des paroles aux auditeurs. Les 38 chefs d'État et des gouvernements des pays membres de la francophonie qui se sont réunis au 13e sommet du 22 au 24 octobre dernier à Montreux en Suisse ont jeté leur dévolu sur la République démocratique du Congo pour l'organisation en 2012 à Kinshasa du 14e sommet de cette organisation internationale. Rappelons que dans un point de presse animé conjointement lors de ce sommet avec le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner, la présidente de la Confédération suisse Madame Doris Lecar et le secrétaire général de l'OIF Abidou, le chef de l'État Joseph Kabila a remercié tous les États membres de la francophonie d'avoir porté leur choix sur la République démocratique du Congo en indiquant bien sûr que cela a toujours été le souhait et la volonté du peuple congolais depuis 1990. Il a indiqué que le sommet de la francophonie qui se tiendra en 2012 à Kinshasa est non seulement l'affaire de la RDSE, mais aussi celle des Grands Lacs et des pays de l'Afrique centrale. Bref, c'est l'affaire de toute l'Afrique. Notons par ailleurs que la RDC, alors elle a adhéré à la coopération culturelle et technique ACCT actuelle OIF en décembre 1977. Et cette organisation a pour mission traditionnelle promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, développer la coopération au service du développement durable et de la solidarité. Les sommets de Kinshasa vous protègent tous et vous avez besoin d'intervenir. Et une seule question pour l'émission, qu'est-ce que le sommet de Kinshasa peut apporter à la RDC par rapport aux objectifs de la francophonie? Parole aux auditeurs, reçoit dans ce studio Madame Isabelle Tombé, représentante du chef de l'État au Conseil permanent de la francophonie. Cynthia Bachizi est à la réalisation de cette émission, supervisée par Nicole Ngata et William Lungamba est à la technique. Piro et la Mijou vous présentent l'émission. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.org.
Le 14e sommet de la francophonie se tiendra à Kinshasa en République démocratique du Congo. Cela a été décidé au cours du récent sommet de Montreux en Suisse. Vous allez vous exprimer tout de suite sur ce sommet, ce que ce sommet peut apporter la RDC. Appelez-nous au 0481-89-7315 et par internet à l'adresse pa@radiookapi.net. Madame Isabelle Tombé, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue au studio de Radio Okapi.
Merci.
Vous représentez le chef de l'État au Conseil permanent de la francophonie. Avant d'aller avec les auditeurs dans à l'intérieur pour parler du sommet, revenons d'abord à ce que vous vous occupez comme poste. En quoi consiste le Conseil permanent de la francophonie?
Écoutez, la francophonie est une organisation internationale, comme vous le savez, et cette organisation internationale a plusieurs niveaux. Le premier niveau s'appelle le sommet des chefs d'État, c'est de là que découle tout le reste, c'est-à-dire que c'est le niveau supérieur de la francophonie, c'est à travers le sommet des chefs d'État que l'organisation a ses orientations et ses programmes sont induits suivant les décisions des chefs d'État dans les sommets. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la conférence ministérielle, la CMF, la conférence ministérielle de la francophonie, qui se réunit à peu près une fois par an. Ce sont les ministres qui ont en charge la francophonie dans leur pays qui se réunissent. Mais ce qu'il y a de plus permanent, évidemment, dans la francophonie, est le conseil permanent, qui est un petit peu, je dirais, le conseil d'administration de la francophonie, Et dans ce conseil permanent qui est dirigé, qui est présidé par le secrétaire général de la francophonie, dans ce conseil permanent, vous avez tous les représentants des chefs d'État. Alors, quel est leur travail? Ils se réunissent plusieurs fois par trimestre, mais ils sont aussi divisés dans des commissions de travail. Ce sont ces gens-là, au fond, qui font le travail de l'ombre pour traduire en programme, en application, si vous voulez, les décisions des chefs d'État. Et pour pouvoir, alors, grâce à leur travail dans ce conseil, à la fois, traduire, comme je vous disais, en programme ce travail-là, avec les différents opérateurs qu'il y a dans la francophonie. Mmh. Alors, à côté, donc, dans ce conseil permanent, à côté du conseil permanent, vous avez les opérateurs. Et les opérateurs sont la télévision TV5, que vous connaissez tous, et qui, au fond, est notre lucarne francophone à travers le monde. Mais à côté de ça, vous avez l'agence universitaire francophone, qui fait des programmes d'échange pour nos étudiants. Vous avez l'Université Saint-Gor d'Alexandrie, vous avez la CONFEJAS, qui est la conférence des ministres de la jeunesse, et vous avez la CONFEMEN, qui est également la conférence des ministres de l'éducation. Voilà.
Voilà, c'est ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui, et quand on regarde toutes ces structures, la manière dont ça travaille, on dirait à un certain moment que c'est trop technique, c'est trop intellectuel. Comment, au niveau de la francophonie, on peut appliquer tout cela à ce que la population, les communs de mortels, celui qui surtout qui nous écoute maintenant, puisse s'approprier de la francophonie, qui ne trouve pas que la francophonie reste une affaire de politique, une affaire de ceux qui vont à l'école, une affaire des intellectuels, et cela peut être perçu par tout citoyen comme la francophonie a une action sur chaque citoyen, et ce ne soit pas considéré comme quelque chose qui appartient juste aux politiques et aux intellectuels.
Il est vrai que dans ce pays, il a fallu longtemps pour que la francophonie soit, disons, visible pour la population, parce que pendant longtemps, ça a été, c'est vrai, dans notre pays, je dirais que c'est plutôt le chef de notre pays, ça a été dans notre pays pendant longtemps une chasse gardée des politiques. C'est-à-dire que, bon, la francophonie se dirigeait à haut niveau et il n'y avait pas de feedback, excusez-moi de prendre un mot franglais,
c'est bon.
Il n'y avait pas de feedback pour la population. Alors, depuis 10 ans dans ce pays, on essaye, je dis bien, on essaye de vulgariser d'abord le concept, que les gens comprennent, qu'ils arrêtent de faire des confusions entre France, francophonie, langue française et assujettissement à la France. Je pense que ça, ce sont les confusions qu'on a faites pendant longtemps, il y en a qui continuent à les véhiculer. Mais il faut dire que la francophonie, qu'est-ce que c'est la francophonie? Au départ, la francophonie, c'est l'union des pays qui ont le français en partage. Donc, la langue française a été le ciment, le ferment de cette organisation. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui nous réunit. C'est d'abord la langue. C'est la langue en tant que véhicule communicationnel, mais aussi la langue en tant que véhicule culturel. Et aujourd'hui, en RDC, je dirais que la langue française est devenue une langue congolaise, parce que il est inconcevable aujourd'hui que, soit dans l'éducation, soit dans l'administratif, soit dans les communications que nous avons les uns avec les autres, nous n'ayons pas le français en véhicule. Et on s'est tellement bien approprié le français qu'aujourd'hui nous avons un lexique typiquement congolais dans la francophonie. Alors, pour le public, c'est vrai que il fallait qu'ils puissent savoir en quoi consiste cette organisation. Cette organisation, bien sûr, au départ, fait d'abord une coopération culturelle et technique, comme son nom l'indique. Pourquoi? Parce que ces jeunes pays qui se sont réunis pour faire la francophonie au départ,
grosso modo, des anciennes colonies françaises. Donc, elles avaient pris leur trait d'union en tant que colonies françaises, c'est-à-dire qu'on avait eu cette langue en partage. Mais, comme c'était des jeunes États, ils avaient aussi besoin d'un développement. Donc, ils avaient besoin de l'apport technique et ils se sont trouvés effectivement, ils ont eu la bonne idée de se réunir pour pouvoir s'entraider dans le développement. Alors, aujourd'hui encore, c'est une réalité, c'est-à-dire que la francophonie non seulement elle a une portée politique aujourd'hui, mais la francophonie continue à faire des programmes de coopération bilatérale et multilatérale avec les pays francophones.
Voilà, merci. On va cheminer ensemble avec vous dans cette émission et les auditeurs aussi, comme Jean-Marie qui nous appelle de Kirumba au nord Kivu, Ilomba et Takananga. On va leur donner la parole et les autres qui voudraient aussi donner leur point de vue par rapport à la francophonie et surtout l'apport qu'ils attendent du sommet qui sera organisé à Kinshasa. On va tous vous donner la parole et nous allons cheminer ainsi ensemble jusqu'à la fin de l'émission.
Parole aux auditeurs.
Nous avions un auditeur de Kirumba au nord de vous, c'est je crois bien Jean-Marie. Jean-Marie, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot.
Nous parlons de la francophonie, mais on voudrait plus revenir sur le sommet qui va être organisé ici en RDC en 2012. Vous êtes au nord de vous, à Kirumba précisément. Qu'est-ce que vous attendez d'un sommet comme ça quand on l'organise? Qu'est-ce que vous voudriez que ce sommet puisse apporter à vous, par exemple, qui vivez au nord de vous, à Kirumba?
Oui, bien sûr. Merci beaucoup, M. Pierrot, de m'avoir posé la question. Mais tout d'abord, je vais d'abord rappeler que, comme l'a dit notre invité, nous sommes le deuxième pays locuteur de la langue française dans le monde, juste après la France. Alors, la preuve est que nos organes de presse en témoignent pour la plupart. Nos radios parlent français. À l'école, c'est le français. Dans l'administration, c'est là. C'est le français, comme a dit votre invité. Alors, ce que j'attends de ce sommet, je souhaiterais que les pays de la francophonie puissent essayer de s'unir, comme a dit l'invité, une union, l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Je me suis toujours demandé pourquoi des pays colonisés par la France sont en guerre. Voyez-vous, les troubles au niveau, par exemple, du Tchad, au niveau de la Côte d'Ivoire, récemment, il y a eu élection. Bon, des pays comme le Gabon, il y a eu une présidence presque éternelle. Alors, moi, je souhaiterais que la francophonie tente de résoudre les problèmes des pays qui ont en partage le français, comme par exemple ici chez nous à l'Est. Voilà, donc, nous parlons français dans l'administration, dans la diplomatie. D'ailleurs, certains disent que le français, c'est une des langues de la diplomatie. Je souhaiterais qu'à partir de ce sommet, le 14e que nous organisons, et dont je salue l'organisation, puisse servir de moyen direct, voire même indirect, pour résoudre le problème de l'insécurité ici chez nous, dans notre République démocratique du Congo.
Merci Jean-Marie. Vous souhaitez que les sommets contribuent à la résolution de conflits en Afrique et surtout à l'insécurité en RDC. On va au centre du pays, à Kananga. Ilomba, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, c'est tout monsieur Ilomba.
Ilomba, voilà. Vous avez suivi Jean-Marie de Kirumba, il souhaite que les sommets qui sont organisés à Kinshasa servent de moyens directs et indirects pour la résolution de la sécurité en RDC. Vous êtes à Kananga, on vous écoute.
Oui, monsieur le journaliste, vous devez d'abord savoir qu'avant de prétendre sur quelque chose, il faut d'abord dire ce que la francophonie a fait de ce pays. Parce qu'il y a mon professeur qui a, donc il a dit, la RDC occupe la deuxième position, mais juste à présent, la francophonie n'a rien fait vraiment dans notre pays. Et moi, je me dis, prétendre sur quelque chose avec la francophonie, c'est peut-être un passe-temps parce que tout tourne de ces choses. La première chose, c'est l'économie. Donc, si vous avez une économie forte, vous verrez que vous allez gagner quelque chose derrière cette organisation. Et deuxièmement, c'est la politique étrangère. Et tant que les deux choses-là ne marchent pas dans notre pays, et moi, je me dis, c'est vraiment une organisation de taux. Et puis, surtout que le moment n'est pas donc indiqué pour organiser un tel sommet. Pourquoi? Parce qu'en 2011, nous aurons vraiment des élections. Et voire même en 2012 et je me demande d'où est-ce que la RDC aura cet argent-là pour organiser tel soin parce que ça demande, ça exige beaucoup d'argent. C'est vrai que Madame Isabelle pourra nous dire que non, voilà, ce n'est pas le pays qui pourra donner cet argent-là, mais attention, parce que sur le plan international, il n'existe pas donc l'amitié entre pays. Ce sont les intérêts qui comptent. Lorsque vous investissez, lorsque vous donnez quelque chose, vous devez aussi retirer cette chose-là d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pour vous dire que je fais quelque chose au niveau de la francophonie, c'est vraiment dommage parce que la francophonie, bon, vraiment, comme engagé, je fais bien mes mots, la francophonie n'est pas aussi bien organisée. Nous voyons comment est-ce que ceux-là qui dirigent cette organisation-là sont en train de détruire leur propre pays.
Voilà, en fait, il n'y a pas qu'on concentre. Vous dites que ceux qui dirigent la francophonie détruisent leur pays, ou bien vous parlez des chefs d'État francophones et des pays membres de la francophonie. Est-ce que vous parlez d'organisation ou pas, ou vous parlez des chefs d'État?
Bon, mais ce sont les chefs d'État qui donnent force à cette organisation. Ce sont eux. Vous verrez que lorsque un chef de l'État, membre de la francophonie, est au pouvoir, et son confrère aussi au pouvoir, vous verrez qu'il y a toujours une politique de destruction. Ben, je m'abstiens de donner ce cas, hein, sinon si vous me demandez, je vais donner ce cas-là.
Ben non, ben on ne va pas citer des cas à donner des gens sur les antennes, mais dis-moi si on vous comprend pour terminer avec vous. Vous êtes au plus pessimiste, vous pensez que ça ne peut pas marcher, hein, avec un sommet, il ne peut pas apporter quelque chose pour la RDC, mais votre inquiétude aussi, c'est de savoir qu'en 2012, c'est la période électorale, est-ce qu'il y aura assez de moyens pour tantôt organiser les élections, tantôt organiser le sommet de la francophonie. Merci, Iloba, vous êtes à Kananga, votre point de vue est bien arrivé. À Kananga, vous nous suivez sur 93.0 MHz. À Kalibi, au Katanga, c'est Daniel qui est en ligne. Daniel, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Est-ce que vous êtes pessimiste comme il l'a dit en disant que ça n'a pas d'impact l'organisation d'un sommet de la francophonie, ça n'a pas d'impact en RDC et son inquiétude par rapport aux élections? Est-ce que vous avez un point de vue contraire, Daniel, vous êtes académique?
Oui, j'ai la vue contraire. Moi, je suis optimiste. Hein.
Mm-hmm.
Étant donné que le français pour nous la langue officielle, cela n'est écrit pour personne. Nous avons été colonisés par les Belges, ils ne nous ont pas appris leur langue, mais curieusement, nous sommes retrouvés à la deuxième position sur le plan mondial.
Mm-hmm.
Organiser un tel sommet, ça pourra aussi nous encourager, pourquoi pas, nous permettre d'occuper suffisamment cette place-là.
Mm-hmm.
Moi, je suis totalement content.
Okay.
J'encourage d'ailleurs le sommet de l'État, parce qu'il est allé faire là où c'est en Suisse. Hein.
C'était en Suisse à Montreux, oui. Merci.
D'accord. Moi, ça m'a enchanté. Je pense que beaucoup d'amis et beaucoup d'autres frères, pourquoi pas d'autres frères qui vous suivent et qui soutiennent.
Merci beaucoup, Daniel. Vous êtes très optimiste pour ce sommet qui sera tenu à Kinshasa. Nous terminons ici à Kinshasa avec Jurès avant de prendre notre invité. Jurès, vous êtes en ligne, bonjour. Jurès, vous êtes en ligne, bonjour. Apparemment, on a perdu Jurès. On va donner la parole à Madame Isabelle Tombé tout de suite après.
Parole aux auditeurs.
Alors, Madame Isabelle, la première en cette vague des auditeurs, Jean-Marie de Kirumba, lui, il souhaite que ce sommet soit une occasion pour résoudre le problème de l'insécurité en RDC, que les chefs d'État qui vont se retrouver à Kinshasa se penchent sur cela pour aider la RDC. Et le Vatican en Haïti, il est vraiment pessimiste, il ne pense pas que ça peut avoir d'impact sur la vie des Congolais, et surtout, lui, il est inquiet. Est-ce qu'on aura assez de moyens pour organiser un sommet alors qu'il y a la période électorale en 2011-2012? Daniel, il est content, il encourage, il croit même que le sommet peut encore aider la RDC à émerger au contre-fond de vie.
J'ai un point de vue plutôt contrasté parce que effectivement certaines questions me réveillent un peu la méconnaissance de l'organisation et en quoi consiste ce sommet de ce débat. Il n'appartient pas à une organisation comme celle de la francophonie de résoudre nos problèmes de sécurité. Nos problèmes de sécurité nous appartiennent d'abord. C'est-à-dire qu'on peut demander à l'eau de venir à la rescousse, mais les problèmes de sécurité appartiennent au gouvernement du pays. Et je pense que le chef de l'État a quand même fait montre de tenacité pour pouvoir arriver à ce que peu à peu, nous arrivons à consolider la paix. C'est vrai, c'est une réalité congolaise, qu'à l'Est, le travail n'est pas terminé, mais nous revenons de loin. Et nous revenons d'une décennie de guerre, nous revenons de plusieurs problèmes, et c'est en premier lieu à notre chef de l'État et au gouvernement qui l'accompagne dans sa tâche de l'exécutif, de d'abord prioriser la sécurité et de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait cette sécurité. Alors, quant à dire que la francophonie n'a jamais rien fait dans ce sens-là dans notre pays, c'est aussi une erreur. Quand nous étions justement en plein éclatement du pays, et qu'il fallait parler de la facilitation, la francophonie avait d'abord envoyé ici le Suzan Sou, qui était venu et qui avait été proposé comme facilitateur. Ensuite, les choses ne se sont pas faites et nous avons opté pour Kate Massiré. Mais tout au long du processus, la francophonie a toujours été présente et a toujours appuyé la RDC. Et quand il s'agit du processus électoral, idem, la francophonie est venue aussi en appui. Quand il s'agit des élections, la francophonie est venue aussi en tant qu'observateur et en tant qu'appui. Et quand il s'est agi maintenant d'installer nos institutions, la francophonie a encore répondu présente. Vous savez que pour que des institutions soient solides, il faut d'abord se baser sur les lois. Nous n'avions pas de code remis à jour. C'est la francophonie qui a quand même financé la remise à jour et le rassemblement des codes judiciaires de la RDC. Donc, on ne peut pas dire que cette organisation était absente. Et jusqu'à présent, la francophonie continue à appuyer la politique gouvernementale en ce qui concerne la sécurité. Mais ce n'est pas son rôle de prendre la place du gouvernement. Alors, il y a une autre question que j'ai vue.
C'était par rapport à la période électorale de 2011-2012, est-ce que c'est possible, on a assez de moyens pour organiser les sommets pendant qu'on organise aussi les élections. C'est ça l'inquiétude de Uloba.
Mais son inquiétude est pertinente, il n'est pas à l'envers du décor. Mais je dirais simplement à Uloba pour le rassurer, c'est-à-dire que le chef de l'État est allé à Montreux, et à Montreux, ses pairs l'ont désigné pour accueillir le sommet de 2012. C'est une responsabilité très importante. Et le chef de l'État n'a pas pu la saisir sans en peser les conséquences. Donc, faisons d'abord conscience à celui qui a repris le témoin pour organiser le sommet en RDC, pour savoir qu'il a la pertinence de trouver les moyens pour organiser le sommet.
Voilà.
Et nos prétentions pour avoir un sommet ne datent pas d'hier. Ça fait pratiquement 8 ans que, sans relâche, la RDC a demandé d'avoir un sommet de la francophonie dans ses murs. Pas parce qu'elle est le deuxième pays francophone en termes de l'équipe, parce que ça aussi c'est une erreur. Nous sommes le premier pays francophone en termes de l'équipe. Et depuis la création de cette organisation, le premier pays francophone n'a jamais accueilli les assises de la francophonie. Nous n'avons eu de cesse d'avoir des rendez-vous manqués avec ce sommet de la francophonie. Ceci, le premier sommet de la francophonie avait eu lieu en France en 86. Le sommet suivant devait avoir lieu en RDC, mais on nous a demandé de céder la place à Léopold Sédar Senghor, puisqu'il était quand même l'un des géniteurs de la francophonie. On nous a demandé de lui céder la place, Et c'est le Sénégal qui a organisé le deuxième sommet d'Afrique. Ensuite, c'était la RDC qui, de plein droit, devait à nouveau organiser le sommet de la francophonie. Mais en 90, nous avons eu ce qu'on a appelé les massacres de Lubumbashi, des coups de canif sérieux dans la démocratie du pays, a fait que on a retiré une extrémiste à la RDC le sommet.
Voilà. Voilà, c'est un peu ça, c'est dans l'historique, hein, et quand même, vous avez donné des garanties à notre auditeur que le chef de l'État a payé toutes les conséquences pour avoir accepté l'organisation en 2012, parce que son inquiétude était celle de savoir, avant qu'on donne la parole à d'autres auditeurs, est-ce que le fonds pour l'organisation du sommet, c'est l'État seul qui prend la charge, ou il y a aussi une contribution de l'Organisation internationale de la francophonie?
Oui, mais je voulais insister d'abord que ce n'est pas une improvisation. C'est ça que je voulais dire à l'auditeur, que organiser un sommet et décider d'organiser un sommet, ce n'est pas une improvisation. Et si je vous ai brossé le portrait de l'historique,
c'est pour montrer que la RDC a souhaité depuis
longtemps, mais que Joseph Kabila depuis a pris le relais et que depuis 2002, il a décidé d'être candidat à accueillir ce sommet. Et aujourd'hui, c'est fait. Alors, ce sommet, c'est un sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, déjà, quand la RDC va organiser ce sommet, elle a comme partenaire l'Organisation internationale de la francophonie. Et au-delà du partenariat avec l'Organisation de la francophonie, il y a aussi tous les chefs d'État qui font partie de ce sommet. Donc, ce ne sera pas seulement l'affaire de la RDC, ça va être l'affaire des pays francophones.
Voilà. Jean Classique, vous êtes en ligne, vous allez nous appeler de l'Université de Kinshasa, ici dans la capitale, et Mary Okundi est ici à Kinshasa, et Simon est à Matadi. Nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez donner votre point de vue sur tout ce que vous attendez du sommet qui sera organisé à Kinshasa. Je crois qu'il y a beaucoup de questions, madame, liées à la francophonie, à ce qu'elle fait déjà dans le pays. On saura entrer dans les détails pour revenir sur chaque point. Vous avez déjà adressé eu égard à ce qui a été posé comme préoccupation par le premier auditeur pour dire ce que la francophonie a déjà fait au pays. On pourra avancer ainsi cheminer. Écoutons d'abord Jean Placide qui nous a fait de l'Université de Kinshasa, de Mairie de Kinshasa et Simon Sissamatadi.
Parole aux auditeurs.
Jean Placide, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Jean Placide Mbaye à
l'Église. Vous êtes à l'Université de Kinshasa, vous êtes enseignant, vous êtes étudiant, vous êtes encadreur.
Je suis étudiant finaliste en sciences économiques et de gestion.
Voilà, vous en tant qu'étudiant finaliste en Université de Kinshasa, concrètement, qu'est-ce que vous voudriez par exemple que les sommets puissent apporter sur le plan de l'éducation parce que vous êtes concerné par cela?
En fait, j'ai salué d'abord l'organisation de cette année prochaine des sommets de la francophonie dans le pays. Mm-hmm. Parce que, avant tout, l'organisation, bien sûr, des sommets dans un pays suscite des effets d'entraînement. Pour moi, je pense que il y a d'abord beaucoup de signes positifs, parce que sur le plan diplomatique, pour les faire à ce que beaucoup de présidents des pays de la région, des pays même partageant donc la même langue, qui est le français, pourront venir en masse dans le pays. Sur le plan diplomatique, ça pourrait apporter beaucoup de choses. Sur le plan économique, les hôtels, les marchés, il y aura une circulation des biens et des services, vous verrez que c'est un signe positif. Sur le plan politique, même, ça donne une certaine crédibilité aussi à la politique, aux dirigeants de la République. Néanmoins, ce qui fait craindre, je pourrais dire, c'est toujours, ça fonctionne un peu mal parce que l'organisation de ce sommet tombe justement à l'organisation des élections. Vous voyez que les élections, c'est une chose importante de la République qui pourrait peut-être perturber. Je pense que le sommet pourrait peut-être être un alibi pour peut-être les chèques ou les réformes des éventuelles élections. C'est pourquoi, à mon avis, je vais considérer que ce sommet soit beaucoup plus pour apporter des des innovations, des bonnes œuvres dans notre pays. Par exemple, sur le plan de l'éducation, aujourd'hui, on ne sent pas l'impact de la francophonie comme c'était il y a peut-être 15 ans, 20 ans passés. Aujourd'hui, il faudrait que la RDC essaye de faire un effort pour essayer de profiter de la francophonie, l'alliance franco-congolaise pour faire participer les étudiants dans les jeux de génie dans l'herbe, des jeux de Scrabble mondial, surtout avoir des bourses d'études, faciliter un peu le cadre de l'enseignement, les étudiants du Congo à pouvoir être inscrits facilement dans les universités francophones du monde. Je pense que ça serait mon avis par rapport à ça.
Merci Jean-Placide Akinkata, Radio Capillé Capté sur 103.5 MHz. Merci de votre point de vue, votre souhait. Nous restons ici avec M. Okondi. Vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. Quelles sont les attentes des Congolais par rapport à ce sommet?
D'abord, il faut dire que le choix de la RDC pour l'organisation du sommet de 2012 est avant tout un encouragement pour le pays. Mais d'autant plus que je dirais que c'est un encouragement pour le pays, d'autant plus que la RDC est parmi les plus grands pays francophones au monde. Mais il ne faudrait pas que l'on puisse vite arroser des champagnes, hein, comme on l'a fait avec l'atteinte du point d'achèvement. D'autant plus que ce choix nous met sous haute surveillance, c'est-à-dire qu'il faudrait que la RDC puisse se conformer, puisse respecter les principes démocratiques, notamment le respect des droits de l'homme, par exemple. On l'a vu au Madagascar, au Canada, le Madagascar a été retenu pour l'organisation du sommet qui devait se tenir sur la... Je crois que c'est celui qui s'est tenu même en Suisse. Mais lorsqu'il y a eu des problèmes au Madagascar, ils ont tout simplement déplacé le sommet. Donc, je pense qu'on ne devrait pas arroser des champagnes. Faisons très attention. Nous sommes sous surveillance. Il faudrait que l'on puisse respecter la démocratie, que l'on puisse respecter la liberté d'expression, que l'on puisse respecter le principe de droit de l'homme, pour que nous puissions mériter, en tout cas, l'organisation de ce sommet en 2012. Si l'on ne respecte pas les principes démocratiques, je suis sûr qu'on risquerait de subir le cas du Madagascar.
Voilà, quand vous parlez du respect des principes démocratiques, et si on ne respecte pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va changer brusquement les institutions, partir des bases démocratiques que nous avons maintenant pour installer une autre procédure qui va faire qu'on puisse rater, ou concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par respect des principes démocratiques?
Par exemple, lorsqu'il y a une violation récurrente des droits de l'homme. C'est une raison qui peut dire à l'OIF de ne pas tenir ce sommet à Kinshasa, par exemple.
Voilà, merci.
Par exemple, lorsque l'on ne respecte pas le principe, les élections, par exemple, la tenue des élections, l'organisation des élections libres, transparentes et démocratiques.
Voilà.
La francophonie change d'avis.
Merci
donc,
beaucoup.
Nous devons rester dans la ligne de respect des principes démocratiques pour, en tout cas, que ce sommet soit effectif en 2012.
Merci beaucoup, M. Méry Okondi. C'est une grande interpellation pour tous les Congolais en général, afin que les gens puissent respecter dans le principe. Le principe sont énoncés, même les valeurs, ce sont les valeurs communes de la francophonie. Le respect des droits de l'homme, ce sont des obligations des uns et des autres envers la charte même de la francophonie. Merci beaucoup, vous êtes ici à Kinshasa. On va à Matadi. Simon, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de suivre Méry Okondi qui pense qu'il faut profiter de l'organisation de ces sommets pour que nous puissions aussi remplir nos obligations, nous, Congolais, vis-à-vis du respect des principes démocratiques, des groupes de droits de l'homme. Et vous êtes à Matadi, quel est votre point de vue?
En fait, je suis Simon Kilolo, secrétaire provincial du syndicat national des enseignants des écoles conventionnelles catholiques.
Mm-hmm.
En fait, je voulais prendre un peu selon lesquelles pour apprécier cette démarche du président de la République qui a commencé il y a beaucoup d'années, parce que la francophonie doit savoir que cette institution pouvait encore beaucoup faire dans des pays qui font partie de ça. Parce que si nous comparons aujourd'hui les pays anglophones, les pays lusophones, par rapport aux pays francophones, franchement, il y a un décalage sur le plan développement. On dirait que les pays francophones sont un peu en dessous par rapport aux pays anglophones. Mais, ça sera le tien, comme là, l'intervention qui vient de se passer, il va falloir au gouvernement congolais de ne plus faire des dépenses inutiles comme il le fait pour sauver les images. Mais par ce sommet, qu'on fasse voir ce que nous sommes réellement, que nous sommes dans une phase, au lieu de colorer des avenues, des dépenses, de faire tout ce qu'il faudrait là, alors que nous ne sommes pas ça. Il faut que les francophones, il faut que les francophones puissent voir ce que nous sommes réellement, les difficultés des Congolais, leurs jeunes, leurs avenues, leurs écoles, et que un licencié de l'école secondaire lui gagne moins qu'un huissier de l'enseignement universitaire. Il faut qu'on sorte tout ça. Et encore, je crains que qu'on fasse encore serrer la culture à cause de la francophonie et des élections comme on nous l'avait fait pour le point d'achèvement.
Merci Simon, merci beaucoup Simon. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont sur la ligne. Hein. Vous êtes très nombreux, on ne saura pas vraiment vous aligner tous parce qu'on a passé des temps. Nous terminons avec cette fois avec Emmanuel de Kinshasa. Emmanuel, bonjour. Vous venez de suivre aussi Simon de Matadi qui s'inquiète. Il dit qu'on ne va pas nous dire de serrer la ceinture parce que nous avons organisé le sommet. Il voudrait que nous puissions présenter à la face du monde notre situation en tant que telle. Vous êtes ici à Kinshasa, on vous écoute Emmanuel.
Oh, bien sûr, vous le dites bien. On va faire présenter à la face du monde notre situation. Je pense que le chef de l'État d'abord il a fait quelque chose de très important et nous encourageons cela. Bien sûr, parce que vous savez, à certains moments, c'est dans ce pays que tout le monde déplore les conditions maladives et fiévreuses qui traversent notre pays aujourd'hui. Ce n'est pas la francophonie, justement, qui pourra peut-être venir résoudre les problèmes des Congolais. Le problème qui est intéressant, c'est que on devait d'abord regarder de l'avant, voir d'abord les élections de 2011, comment est-ce que nous allons organiser ces élections et quels sont les mécanismes que nous allons mettre en place pour que ces élections puissent se passer d'une façon normale. Alors, ce n'est pas encore le moment d'être encore au four et au moulin, comme je venais de le dire, d'organiser encore un grand sommet comme ça de la francophonie, parce que ce n'est pas une messe à faire. Vous savez, un prêtre ne peut pas dire la messe en Eucharistie. Nous devons d'abord regarder ce qui est essentiel. C'est parce que dans ce pays, nous n'avons pas des édifices, nous n'avons pas des hôtels qui répondent aux normes internationales. Parce que c'est un grand sommet, comme vous le soulignez. Ça demande beaucoup de choses, ça demande des moyens, ça demande faut qu'il y ait des bonnes infrastructures, etc. Alors, si il n'y a pas de bonnes routes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir de partout, ce n'est pas seulement les chefs de l'État qui vont venir, il y a beaucoup de gens qui viendront de partout pour venir, parce que c'est un grand événement.
Emmanuel, en bref, votre souci, c'est quoi dans tout ça? Vous dites qu'il y a élection d'un côté, on ne peut pas faire des choses à la fois. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on organise ou qu'on n'organise pas, qu'on laisse d'abord passer la période des élections, qu'on organise après? Quel est votre souci concrètement pour le sommet?
Oui, mon souci, justement, je voulais dire que ce n'est pas le moment. Mmh. Alors, moi, je voulais tout simplement que nous puissions regarder les élections qui vont venir en 2011.
Et prévoir organiser le sommet après. Merci Emmanuel. Vous pensez qu'il faut plus d'abord regarder aux élections et penser à un sommet après.
Oui, c'est ça, justement.
Parole aux auditeurs.
Hubert qui nous écrit de Bukavu dit ceci: j'attends du 14e sommet de francophonie qui sera organisé en RDC, qui est des signatures hein, dans les différents secteurs. Il voudra voir des actions concrètes dans l'enseignement supérieur et universitaire, la recherche scientifique, la protection de l'environnement et de l'écosystème, l'industrie et le commerce, la sécurité, les télécommunications, la diplomatie, des très bonnes relations gagnant-gagnant entre la RDC et différents États qui seront présents à Kinshasa. Madame Isabelle Tombé, nous n'allons pas nous pleurer sur ce que la francophonie n'a jamais fait en RDC, parce qu'il y a beaucoup d'actions. Quand on regarde aujourd'hui au niveau de la délégation générale de la francophonie, il y a les bourses d'études qui sont données. Bien sûr qu'à un certain moment, on dirait qu'il y a un problème de déficit communicationnel qui fait que les gens ne se rendent pas compte de ce que la francophonie fait. Mais si on regarde à l'avenir, tel qu'il a dit le député Méry Okondé, il dit que ce soit aussi une raison qu'on soit surveillé pour que nous puissions respecter les valeurs que je vois là dans la charte de la francophonie qui permettent en fait que les pères puissent avoir les garanties de tenir le sommet et de ne pas les déplacer en dernière minute pour dire il y a eu ça au Congo, ça ne permet pas de les tenir comme cela est arrivé en 90.
Oui, mais bon, je crois que d'abord, il faudrait quand même faire la part des choses. Mm-hmm. D'abord, nous faisons partie de cette organisation. Et nous étions là quand on a suspendu Madagascar. C'est-à-dire que la voix de la RDC a pesé aussi. Mm-hmm. Quand il a fallu décider, et la voix de la RDC, c'est carrément, c'est moi. Donc, nous sommes conscients aussi de nos devoirs, puisque mm-hmm. en tant que membre de la francophonie, nous avons quand même adhéré à la charte de la francophonie mm-hmm. et aux dispositions qu'il y a eu pour la démocratie, justement, à la déclaration de Saint-Boniface, etc., etc. Et on ne peut pas dire que nous soyons, depuis 2006, les nouvelles institutions sont installées en RDC. Nous avons, ces nouvelles institutions sont nées d'élections démocratiques et transparentes et qui a été acceptée par la francophonie. Et depuis 2006, nous ne figurons dans aucun rapport de la francophonie en tant que pays qui malmène les droits de l'homme, etc., etc. Vous savez bien que le respect des droits de l'homme dans tous les pays démocratiques, c'est une, comment dirais-je, c'est une volonté politique. Mm-hmm. Mais seulement, c'est une boussole qu'on se donne. C'est une boussole qu'on se donne, mais vous savez très bien que dans n'importe quel pays du monde, et même les grands pays francophones qui sont les centres des droits de l'homme, il y a aussi des coups de canif qui sont donnés aux droits de l'homme. Et ce n'est pas toujours du fait d'une volonté politique, mais ce sont les aléas de la vie en fait humain. Mais simplement, le pouvoir politique est là pour remettre les choses, remettre les pendules à l'heure. Alors je voudrais quand même rassurer l'auditeur et lui dire qu'il y a une volonté politique. Le président de la République a fait une déclaration aussi à Montreux, parce qu'on lui a posé la question, a fait une déclaration à Montreux. Nous reconnaissons qu'il y a des problèmes, mais ce n'est pas du fait d'une volonté politique, et il y a surtout une volonté politique justement pour que les gens qui s'adonnent justement aux violations des droits de l'homme, et surtout en ce qui concerne les femmes, soient traduits en justice et que la justice puisse être dite. Donc, ce n'est pas non plus le rôle des pays francophones de venir nous surveiller pour savoir si nous sommes...
Nous respectons les principes démocratiques ou les droits de l'homme.
Non.
Mais du moins, la francophonie accompagne les...
Bien sûr, la francophonie nous accompagne et la francophonie peut, à un moment donné, nous rappeler à l'ordre. Mais jusqu'à présent, je pense que la RDC a fait ce qu'elle devait faire et elle peut mieux faire puisque c'est un but en soi, donc elle peut mieux faire. Donc je crois qu'on ne peut pas se focaliser là-dessus pour penser que on peut nous retirer le sommet. Alors quant aux éditeurs qui s'inquiètent du fait qu'il y a des élections en 2011 et que en 2012 c'est un petit peu proche et que peut-être que le sommet sera
un peu entraîné longtemps,
sera un prétexte pour retarder encore les élections. Je crois que non. D'abord, les élections ont lieu en 2011 et le sommet de la francophonie aura lieu fin 2012. Donc, je crois que
on aura déjà eu le temps d'avoir même passé le deuxième tour plutôt des élections s'il y a un deuxième tour.
Absolument. Donc, le problème ne se pose pas dans ces termes-là. Ah, le calendrier, le chef de l'État qui est le garant de notre nation et du respect de notre constitution a dit qu'il allait y avoir des élections et il va tout mettre en œuvre pour que les élections aient lieu en 2011. Par contre, je suis d'accord avec Jean Placide quand il dit que, effectivement, un sommet de la francophonie peut avoir un effet d'entraînement.
Mm-hmm.
Quand un pays accueille un sommet, vous pouvez savoir que le rendez-vous n'a pas lieu seulement les jours qui sont dévolus au sommet.
Mm-hmm.
Un sommet a un effet d'entraînement, pourquoi ? Pendant toute une année, pratiquement, il va y avoir des manifestations qui vont nous amener au point d'orgue qu'est le sommet. Et ceci permet à la fois d'avoir, des manifestations festives, bien sûr, des manifestations culturelles, mais aussi ça va permettre aux étrangers de venir dans notre pays, de découvrir ce que nous sommes, parce qu'on nous voit aussi à travers des lucarnes tout à fait négatives à travers le monde. Et le fait d'ouvrir nos portes au monde va avoir un effet d'entraînement aussi économique. On parlait de l'hôtellerie. Madame, je crois qu'elle n'est pas très bien renseignée. Le pays commence de plus en plus à avoir les infrastructures qu'il faut pour pouvoir accueillir un sommet.
Et même le sommet aussi peut renforcer l'engagement et les investissements pour améliorer les infrastructures.
Absolument. Et ceci a effectivement une portée politique et une envergure internationale parce que ça va permettre effectivement à la RDC de retrouver sa place qu'elle mérite à travers le monde. Et ça, c'est absolument important. Quand on est une quantité négligeable dans le concert des nations, je crois que les problèmes sont aussi négligeables. Mais quand on retrouve du crédit, on retrouve sa place, je crois que c'est aussi l'honneur de la RDC qui est retrouvée.
Voilà. Il y a aussi Bena qui est à 17%, Roland et Takindou, ce sont les derniers auditeurs, mais je me dis, parce que on est qu'au début, ça va être en 2012, mais vous vous rendez compte qu'il faudrait au niveau de que ce soit au niveau de la délégation, que ce soit au niveau de votre structure, renforcer la communication pour permettre à ce que les auditeurs qui sont presque l'ensemble des représentants de la population comprennent le bien fondé d'un sommet, l'implication des uns et des autres, pour qu'enfin les gens ne voient pas comme si les sommets concernés juste les chefs d'État qui vont venir se promener à RDC, faire du discours et partir, mais je pense que c'est au niveau de l'organisation de savoir aussi renforcer ce principe communicationnel pour permettre aux gens de découvrir et de savoir qu'est-ce qui va avoir lieu, qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui peut être fait et comment les uns et les autres peuvent s'impliquer.
Mais je crois qu'il va y avoir un gros travail de communication qui va être fait. Je crois qu'une fois que l'organisation va être mise en place, on va au cours des semaines et des mois qui vont suivre communiquer avec les Congolais, parce que ce n'est pas seulement l'affaire justement des gouvernements. La francophonie, un sommet de la francophonie dans notre pays, une année consacrée à la francophonie dans notre pays, doit permettre aussi aux Congolais de se reconnaître et de participer à cette fête, mais aussi de participer au travail qui va être fait.
Voilà. Maintenant, vous êtes à Kinshasa et Roland est à Kindou. Je complète, madame, pour dire, même quand le sommet aura déjà eu lieu, c'est la RDC qui va continuer à diriger jusqu'en 2014, quand on aura un autre pays qui va accueillir. Ce qui peut voir que c'est un grand travail qui s'étend sur l'ensemble des 2-3 ans. C'est pas seulement l'histoire d'un seul jour. Maintenant, vous êtes ici à Kinshasa, Roland est à Kindou. Vous avez la parole tout de suite.
Parole aux auditeurs.
Maintenant, parce qu'on va vers la fin de l'émission, vous avez la chance, comme nous avons toujours dit, ceux qui interviennent vers la fin, ils ont l'occasion de pouvoir donner les propositions qui peut-être seront retenues une fois pour toutes par l'ensemble de tous les auditeurs. On vous écoute.
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. En suivant les auditeurs, je me rends compte que nombre de problèmes que nous devons résoudre dans notre pays sont liés à un certain excès de pessimisme et puis d'incompréhension. Je crois, madame, elle a donné les objectifs du sommet de la francophonie. Et ces objectifs, aucun de ces objectifs ne porte atteinte à la souveraineté de notre pays ni à ses institutions. Donc, moi, je crois, pour ma part, qu'un minimum de confiance aux initiatives du président de la République serait une preuve de respect de soi. C'est vrai que nous avons des problèmes, mais ces problèmes n'empêchent pas au chef de l'État de s'ouvrir aux organisations internationales même, qui affirment la grandeur du pays. Moi, je crois qu'il faut en train de redouter peut-être le coût logistique, mais comme j'ai dit, il faut un minimum de confiance. Je crois que le président de la République est bien organisé pour résoudre ce problème-là.
Merci, Benoît. Nous terminons avec Roland de Kindou. Roland, bonjour. Roland, vous êtes en ligne, bonjour. Voilà, Roland, vous avez juste une minute et demie parce que c'est la fin de l'émission. Quel est votre point de vue par rapport à ce sommet de la francophonie qui va se tenir ici à Kinshasa en 2012? On vous écoute. Roland, vous avez un problème, vous écoutez la radio, l'intervention à travers votre poste récepteur, ça va vous poser assez des problèmes, il fallait l'éteindre et écouter l'émission à travers votre téléphone portable. On a passé des temps, si vous pouvez maintenant répondre à la question, Roland. On ne saura pas le retenir. Roland, il a un problème, il écoute l'émission à travers le poste récepteur, ça pose assez de problèmes. Nous allons revenir à vous, madame. Vous avez suivi le dernier auditeur de Nantes de Kinshasa. Il pense que c'est le pessimisme lié aussi au fait qu'il y a assez d'incompréhension sur ce que la francophonie fait à travers la RDC. Déjà, comment on peut aujourd'hui scinder la compréhension de la francophonie par rapport à la langue française? Parce que beaucoup de gens ils pensent quand on parle de francophonie, on voit juste le français qu'on apprend à l'école pour permettre aux gens de comprendre l'action de la francophonie dans les domaines des droits de l'homme, dans les domaines de la bonne gouvernance, dans les domaines de la démocratie, et que les gens aient une autre perception de la francophonie à part le fait tout simplement d'appartenir à l'ensemble des pays qui ont le français en partage.
Mais justement, quand il y a un rendez-vous comme celui-là, ça permet pendant deux ans et même au-delà de pouvoir vulgariser le concept, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors, je voulais remercier d'abord Monsieur Benoît de Kim qui justement nous sort un peu de cette phrase qui est un peu à la mode, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une entreprise, les gens s'inquiètent. C'est vrai que nous venons de loin, c'est vrai que nous avons subi beaucoup d'aléas et qu'aujourd'hui la situation économique n'est plus pas florissante. Mais il y a aussi d'autres choses qui se font et il y a un travail qui se fait. Donc nous devons reconnaître que la tâche est immense et que le travail accompli est déjà important, mais ne se ressent peut-être pas autant qu'il faudrait parce que justement la tâche paraît immense. Mais justement quand les autres nous donnent du crédit, parce que quand on vous donne la chance d'accueillir un sommet comme celui-là, c'est qu'on vous donne du crédit. Et si on vous donne du crédit, je crois qu'il ne nous appartient pas à nous de commencer à nous flageller là où les autres nous font confiance.
Voilà, mais quand on a suivi le chef de l'État lors de son intervention à Montreuil, il a martelé sur la crise alimentaire, il a parlé du réchauffement climatique. Est-ce qu'on pourra dire que ce sont là les grandes préoccupations de la RDC à présenter dans ce sommet en ce qui touche la crise alimentaire, le réchauffement climatique et la protection de l'écosystème, parce qu'on l'a entendu lors dans son intervention à Montreuil.
Ah mais écoutez, vous comprenez bien que quand vous êtes, c'est vrai qu'on a parlé du premier pays francophone, mais le bassin du Congo, c'est quand même le deuxième poumon vert de l'humanité. Et avec tous les problèmes que pose le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre, nous avons, une responsabilité mondiale quant à la préservation justement de cette biodiversité. Et ça a été une prestation du chef de l'État. Il en a parlé à Montreux. Et c'est vrai que ça peut être un des thèmes porteurs de ce sommet. Mais ça va sans doute nous inciter à faire un partenariat entre nous qui avons ce bassin du Congo qui est extrêmement important pour l'humanité et nous qui avons besoin tout à fait légitimement de nous développer. Il faudra quand même trouver un équilibre entre les pays développés qui justement sont les grands producteurs de ces gaz à effet de serre et la justice qu'ils doivent nous rendre pour que nous puissions aussi conserver cette nature.
Voilà. Madame Isabelle Tchombé, il me reste pour le moment à vous remercier. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois qu'on va se retrouver pour parler de la francophonie, pour parler du sommet qui va se tenir ici à Kinshasa. Ce n'est que le début parce que c'est dans 2 ans. On aura tous les temps qu'on puisse en parler. Et je rappelle à nos auditeurs que vous représentez le chef de l'État au Conseil permanent de la francophonie. Et merci de vous être déplacé pour participer à l'émission Parole aux auditeurs.
Mais écoutez, moi, je voudrais aussi vous remercier à mon tour, mais je voudrais surtout remercier les auditeurs parce que c'est extrêmement important d'avoir des échanges avec les gens et de savoir au fond comment les choses sont perçues. Par contre, on effectue un travail et il est bon de temps en temps de voir que ceux pour lesquels on travaille réagissent, comprennent ce que vous faites ou ne le comprennent pas. Et c'est à nous à travailler de façon à ce que nous puissions travailler pour eux et compris par eux.
Merci, nous disons merci à tous les auditeurs. Vous étiez très nombreux, on allait pas vous aligner tous sur les antennes. Merci à tous ceux-là qui nous ont acceptés dans leur maison et ceux-là aussi qui avaient l'intention d'intervenir. Malheureusement, faute de l'espace de temps, on n'a pas eu à vous mettre sur les antennes. Nous vous disons tous merci.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Merci, on va se retrouver demain mercredi à partir de 10h20. Nous allons poursuivre avec la série de nos émissions consacrées à la relance des entreprises du portefeuille de l'État. Et demain mercredi, l'émission sera consacrée à l'Office national des transports ONATRA qui connaît aussi des difficultés de fonctionnement avec cet exemple du délabrement des infrastructures dans la province de l'Équateur où les travailleurs ne peuvent pas accéder aux infrastructures, bien sûr, de l'ONATRA. Nous allons en parler avec vous demain mercredi. Une seule question pour le débat. Que proposez-vous pour la relance de l'ONATRA? Soyez nombreux à réagir en vous inscrivant à l'adresse pa@radiookapi.net. Nous disons merci à Cynthia Bachizi pour la réalisation de cette émission supervisée par Nicole Ngata. William Lungamba était à la mise en onde. Pierrot et la Mézou vous l'a présenté. Mais n'oubliez pas que vous allez la retrouver ce soir à 20h de Kinshasa en rediffusion. 21h à l'est et au centre du pays, mais elle est également sur www.radiookapi.net. Merci et au revoir à tous.